Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8 je pense, du Smart Training Podcast. Aujourd'hui, j'accueille un invité de marque, Sébastien. Je pense que ceux qui viennent du basket le connaissent, ceux qui viennent pas du basket vont vite le connaître, ou en tout cas, je pense vous êtes intelligent si vous allez chercher un peu plus loin que le podcast pour voir un peu son parcours, sa méthode de travail et tout ce qu'il va pouvoir nous partager. Merci Seb d'être là avec nous. Première question. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, on va revenir un peu sur toute ta carrière de coach de prépa, mais déjà tes origines, pourquoi t'en es là aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach et quel est ton background, le début de ton background? Parce que pour le coup, t'as eu plusieurs étapes, mais le tout début, après on reviendra sur le reste.
Ouais, bah écoute, Sébastien, donc moi je suis Rennais, ou plus précisément de Mautement de Bretagne. Ça, c'est une petite ville à côté de Rennes. C'est une ville habitée. Alors j'aime bien dire ça parce que c'est toujours pareil. C'est de là où tu pars et d'où tu arrives des fois. Et par rapport à mon parcours, j'aime faire toujours cette petite parenthèse. Donc voilà, Mautement de Bretagne. Et je suis issu d'une famille de basketteurs, moi, à la base. Et j'ai joué pas mal au basket dans ma vie. À un niveau quoi, on appelait ça comment à l'époque? Parce que je suis ancien, j'étais en N3, et le niveau région, c'était de la R1 à l'époque, on appelait ça.
C'est toujours ça.
Voilà, j'étais dans ce niveau-là. Et pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, pour intégrer l'équipe 1 de l'époque, j'avais des qualités basket, certes, mais physiquement, j'étais peut-être un peu lège. Et du coup, naturellement, j'avais un pote qui avait une salle de muscu et puis j'ai commencé à faire de la muscu. Alors, rien à voir avec de la prépa physique. C'était vraiment plus à l'époque, tu soulèves, quoi. Voilà, je pense qu'on n'était pas aussi avancé que maintenant. Mais en attendant, même en faisant ça, j'ai commencé à avoir des gains et tout ça, forcément. Tu gagnes aussi en confiance. Tu deviens un peu plus puissant sur les démarrages, sur les contacts, sur ces trucs-là. Et puis, tu vois les résultats et puis là, tu commences à te poser des questions. Tu te dis, tiens, mais... est-ce que, par exemple, c'était le gros sujet de... quand je te parle de tout ça, c'était en 2000 et quelques. Mais au final, le footing, ça sert à quoi dans le basket? Pourquoi? Tu vois, parce que c'était le truc qu'on faisait tous, quoi. Il faut courir 3 km en pré-saison, je ne sais pas quoi. Et je dis, mais c'est complètement débile, en fait. Et puis voilà, donc c'est ça qui m'a fait que j'ai kiffé. C'est les premières choses qui ont fait que j'ai kiffé ce métier, en tout cas. Ce métier qui n'existait pas à l'époque. C'est tout un contexte qu'il faut remettre.
C'est clair.
Ça fait un coup de vieux quand je te dis ça.
clair.
Mais ça n'existait pas. C'était pas commun. Et puis, moi, en fait, j'ai commencé ma carrière dans une salle de fitness, tout simplement. Alors, tout de suite, j'ai vu que ce n'était pas mon truc. Donc, pas de jugement là-dessus. C'était juste, moi, perso, ce n'était pas mon truc parce que je voulais plus dans la performance et tout ça. Mais je voulais rester dans le basket parce que c'était mon sport que je kiffe. Et puis, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y avait eu, en fait, un projet de formation à Cholet à l'époque qui devait créer une formation avec la fédération, je crois, justement sur de la préparation physique basket et tout ça. Et donc, moi, j'étais accepté. Et puis, au dernier moment, ça ne s'est pas fait, cette formation-là. Et en fait, moi, je ne me suis pas démonté. Je suis allé voir Cholet Basket. J'ai dit, voilà, je vais faire la formation et tout ça. Et je veux être préparateur physique dans un club. Et voilà, je veux vous montrer, quoi. Et en fait, à cette époque-là, il y avait, attention, ça va te faire rire, il y avait déjà quelqu'un.
Ah, purée. Et puis, il est Cholet, t'es en avance.
Ah, c'était un prof de PS.
Ah oui, normal. Et les profs de PS, c'était partout à l'époque, ça c'était clair.
C'était un prof de PS qui faisait, je crois, 8 heures ou 10 heures par semaine, tu vois.
Ok, c'était déjà ça. Ouais, mais pour l'époque, c'était déjà ça, on va dire.
Mais voilà, il y avait déjà cette volonté d'intégrer le physique, centre de formation et tout ça. De toute façon, on sait que Cholet a beaucoup d'avance en général.
Ouais, c'est clair.
Et puis en fait, on a mis un commun accord pendant un an. Et puis à la fin de l'année, c'était les joueurs eux-mêmes, je crois, qui avaient été voir Thierry Chevrier à l'époque et qui avaient dit voilà, on a besoin d'un mec comme lui à temps plein et compagnie.
Ouais.
Et en fait, j'étais devenu à cette époque-là, c'était le premier préparateur physique à avoir un temps complet dans le basket français.
Ouais, ok. À l'époque, Cholet, ils étaient déjà en l'équivalent de la Bet League ou en Pro A.
Parce qu'à l'époque, il y avait Franck Thun, mais je crois qu'il était aussi en même temps...
assistant coach.
Ouais, assistant coach, je crois qu'il cumulait quelque chose. Parce que moi, c'était vraiment, j'étais que préparateur physique spécifique.
Ok.
Complet, et je m'occupais du centre de formation et des pros.
Ok, bah, c'est trop bien.
Voilà. Et puis, en fait, après, bah, on a passé, on va dire, c'était 2006 jusqu'à 2010, on a passé 4-5 saisons. Donc, j'étais avec Herman Kunter, le coach,
Ok.
voilà, qui est connu dans le monde du
Ah, qui est
basket.
connu.
Et puis, on a tout fait en 4-5 ans, quoi, en fait. C'est-à-dire, on a fait une finale de Coupe d'Europe, on a fini champion de France en 2010, on a fait une finale de Coupe de France, on a gagné le trophée, comment il s'appelait ce trophée-là? La semaine des As.
Okay.
Des As. Et puis surtout, en fait, c'est. Alors, déjà, il y avait des diminutions de blessures, il n'y avait quasiment plus de blessures. Donc, tu vois, les impacts qu'on pouvait avoir déjà un petit peu.
Ouais, c'est
Et
clair.
puis surtout, sur ces 5 années-là, en fait, on a envoyé 4 jeunes en NBA,
Ah oui, donc oui.
dont 2 la même année. C'est-à-dire, on a envoyé Nando De Colo et Rodrigue Beaubois.
Ouais.
Et ensuite, on a envoyé Kevin Serafin et ensuite Rudy Gobert. Et si tu veux, ça, alors, c'est pas moi qui les ai envoyés. Hein,
Non, non, oui, non, évidemment, chacun, mais.
Voilà, c'est tout le talent de ces jeunes et le travail, et puis toute la structure qu'on avait pu mettre autour et tout ça.
Ouais.
Mais en fait, ça avait attiré beaucoup, bah, ça avait attiré un peu l'œil, quoi, surtout de la NBA. Et à
Ouais.
l'époque, tu avais Mike Brongard, qui était le préparateur physique historique des Spurs, qui suivait Tony Parker en équipe de France, donc avec le staff de l'équipe de France,
Yes.
et qui a dit, ouais, comment c'est sur les baskets, vous envoyez des jeunes comme ça, le club en Europe ne fait ça, donc qu'est-ce qui se passe? Les structures, est-ce qu'il y a un préparateur physique? Oui, est-ce que je peux le rencontrer? Oui. Bon,
Ah, trop
voilà. Donc en
bien.
fait, on s'est rencontrés comme ça. On a eu une bonne approche, tous les deux, avec un anglais, moi qui était à l'époque très dégueulasse. mais son français n'était pas bon, donc au final,
Ouais, c'est souvent le cas des Anglais.
voilà. Et en fait, il m'a dit à un moment donné, est-ce que tu veux nous rejoindre?
Ok. Ah
Nous
oui.
rejoindre, est-ce que tu veux venir nous observer, quoi?
Ah
Voilà.
ok, yes,
Nous
ok.
observer et tout ça. Et franchir le pas d'aller aux États-Unis. Et on essaye de voir ce qu'on peut faire pour toi.
Ok.
Donc je dis OK.
Incroyable.
Je dis OK. Alors il n'y avait pas de promesse de travailler avec eux et tout ça. Hein.
Non,
C'était pas ça. C'était, voilà, même si c'était 2, 3 mois où je pouvais observer au quotidien, tu vois, il n'y avait pas grand-chose établi, mais voilà, c'était ça le truc.
ah, c'est génial déjà.
Après, ouais, puis après, je crois que j'avais appris par un des joueurs des Spurs, justement, qui voulait me placer dans une université au Texas, un truc comme ça.
Ah, ok.
Mais au final, ça ne s'est pas fait. Voilà, au final, ça ne s'était pas fait. Mais au même moment, tu as Kevin Serafin, lui, qui a été arrivé en NBA à Washington Wizards. Il était arrivé blessé aux Wizards. Et en fait, il m'a appelé, tout simplement. Et il me dit, ouais, tu es toujours aux États-Unis, tout ça. Je dis, ouais. Il me dit, écoute, moi, là, je suis en surpoids, je suis blessé, je suis en surpoids, je ne parle pas anglais, j'ai du mal à m'intégrer, patati patata. Il me faut voilà, j'aimerais de l'aide externe, quoi.
Ouais.
Il dit, est-ce que ça te dit de venir 2 semaines à Washington? J'ai dit, bah ouais, carrément. Donc, je suis allé du Texas à Washington.
Ok.
Et en fait, ces 2 semaines-là sont transformées en 8 ans. Voilà.
Ah putain,
Donc,
c'est fou.
pendant 8 ans, en fait, on a cohabité tous les deux. C'est-à-dire qu'on habitait dans la même maison à chaque fois, quasiment. Et je m'occupais de tout ce qui était sa performance. C'est-à-dire, on avait un chef. En NBA, c'est assez fréquent. Et c'est moi qui gérais tout ce qui était, tout ce qui était les macros, tout ce qui était
Ok.
le jour de le match, tout ça. Les récupérations, on checkait beaucoup parce qu'il a toujours eu un genou fragile, donc on travaillait beaucoup sur les activations, les choses comme ça. Et puis voilà, donc on a fait les Wizards, on a fait New York Knicks, qui a été l'année la plus dure pour nous, et puis après on a fait les Pacers. Et puis après, ça a été le moment de s'arrêter quand il est retourné en Europe, à Barcelone. Ça faisait 8 ans qu'on était ensemble, et puis plus les années Schultz, donc je crois que ça fait 13 ans qu'on était ensemble, tu
Ouais,
vois.
tu
Je l'ai
l'avais
connu, Kevin,
rencontré
à 15 ans. Il avait 15 ans,
ouais,
14 ans,
ok,
quoi, tu vois.
purée, ça
Et
fait un parcours.
ouais, et puis tu vois, à la fin, alors dans le coaching, c'est souvent quand on parle de prépa physique, on parle des méthodes et tout ça. Et en fait, moi, je pense que l'un des trucs les plus importants, quand même, c'est le rapport que tu as avec le joueur et le management que tu peux avoir avec lui et
Ouais.
comment tu peux enseigner les choses et tout ça. Et en fait, sur les 2 dernières années, tu voyais qu'il y avait de l'anticipation aussi bien de son côté que de mon côté, ce qui est normal, on était toujours en permanence. L'anticipation, c'est quoi? C'est par exemple, tu dis, tiens, tiens, sur ce programme-là, on ferait bien ça. Et puis inconsciemment, tu dis, ah, je sais qu'il n'aime pas cet exercice-là. Tu commences à jarter ça, tu vois.
Ouais.
Là, on n'est plus dans cette performance-là. Donc, on avait décidé d'un commun accord que voilà, on avait fait notre chemin ensemble.
Ouais.
Et puis, au moment où ça arrive, ça, en fait, tu as Herman Kunter qui signe à Galatasaray et il me dit, bah, moi, j'ai besoin de toi. C'est un gros challenge, Galatasaray. Donc, il y a déjà des préparateurs physiques à Galatasaray, mais je veux que tu sois consultant pour nous, c'est-à-dire que tu les formes, que tu ailles checker l'équipe et tout ça, et qu'ensuite tu diriges avec les préparateurs physiques. à distance, en gros, tout le travail et tout ça. Donc ça a été pendant un an. Et puis ensuite, après, moi, je me suis posé des questions. Et puis, qu'est-ce que je voulais vraiment faire? Est-ce que je voulais retourner dans une équipe pro? Oui ou non? Le coaching privé me plaît beaucoup aussi, comme je faisais avec Kevin. Et en fait, c'est là où Rodrigue Beaubois est réapparu dans ma vie, à 32 ans, après une énième blessure. Il dit, écoute, moi, je veux que tu deviennes mon coach privé. J'ai besoin de toi maintenant, physiquement et tout ça. Donc voilà, c'est maintenant parce que ça peut. Je sens que ça peut être ma dernière année dans le haut niveau si je fais pas les choses sérieusement. Et puis bah, tu vois, ça fait 4 ans que je suis avec lui maintenant à FS. Et puis je m'occupe aussi d'Adrien Moerman. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de un peu de ma carrière.
J'avais vu aussi que tu avais créé, alors c'est ta, je sais pas si c'est ta boîte,
Ouais.
Ben of Strivers, on dit comme ça.
Ouais, j'ai créé ma boîte Ben of Strivers. Et,
Ok.
en fait, ouais, c'est ma boîte tout simplement. Et c'est là où bah, je mets tous les contrats et tout ça. Et puis aussi, c'est essayer de développer des choses pour les entraînements, notamment l'entraînement à distance. Alors, c'est un grand débat parce que ce n'est pas un entraînement à distance non plus. Ce n'est pas les entraînements en visio parce que les entraînements en visio, bah, je considère que c'est bien dans le fitness. Tu me suis dit, puis on fait. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et il y a toute une philosophie que j'ai essayé de travailler, de réfléchir avec des athlètes de haut niveau qui sont un peu partout dans le monde, mais qui ont besoin d'être suivis, qui ont besoin d'avoir quelque part un référent et à partir de là, qui ont besoin, on a besoin de récolter, moi, beaucoup de data en fait, certaines data pour pouvoir leur permettre d'avoir un suivi et lorsqu'il se passe quelque chose, de pouvoir mieux les reprendre et tout ça. Mais sans non plus aller sur la partie du club, c'est-à-dire les joueurs font ce qu'ils ont à faire avec leur club, bien sûr. Mais nous, on va travailler à travers Ben of Strivers, on va travailler des choses beaucoup plus précises sur le joueur que le club ne peut pas faire. Par exemple, les 2 dernières années, il y a la dernière année et demie, on a travaillé beaucoup sur le sommeil avec Rodrigue Beaubois, par exemple. Savez que le sommeil, bah, c'est pas juste bah, dors, dors, quoi.
Non, c'est clair.
Et ça peut être quelque chose de psychologique, ça peut être plein de choses. Bon, après, il y a aussi la vie privée à prendre en compte, il y a le stress, les
Évidemment.
émotions, le machin. Et au final, on peut s'apercevoir après un long travail qu'au final, ça vient peut-être de la digestion et qu'il y a des aliments qui créent des inflammations, qui alourdissent le joueur, qui lui empêchent de dormir correctement. Tu vois, donc, tous les détails-là qu'un club ne pourrait pas forcément faire
Non, évidemment. Ou alors on est
plus
vraiment dans
précisément.
l'ultra. Et ça me fait, du coup, ça me fait un peu penser à un truc, c'est que tu vois le profil que tu as l'air d'avoir. Alors j'ai plusieurs questions là-dessus, mais c'est assez complet dans le sens où, comme tu dis, en club, on n'a pas forcément le temps d'aller sur plein d'aspects. Alors on essaye, tu vois, en tant que, enfin moi, c'est ma philosophie, entre guillemets, de dire on essaie d'aller sur plein de choses, ce que les clubs comprennent pas toujours non plus. Qu'un prépa physique, c'est pas juste un coach muscu, c'est un gars qui va intervenir sur plein d'éléments, parfois même le psycho, parfois. Alors aujourd'hui, avec l'avènement de la prépa mentale, c'est aussi un peu différent, mais en tout cas, comme tu le dis, moi je vois plein d'éléments sur lesquels le prépa va. Toi, en étant coach individuel, enfin performance coach, on peut dire, tu peux aller sur toutes ces choses-là, mais du coup, ça te demande aussi une formation beaucoup plus large. Moi, je trouve ça enrichissant. Est-ce que quand tu es arrivé à l'époque en NBA avec Kevin, tu te sentais prêt pour finalement faire face à tout ça? Parce que c'est quand même un. T'avais quel âge à cette époque-là?
Quand je suis arrivé en 2010, 30.
Ok, donc t'arrives à 30 ans. Bon, t'avais quand même de
29.
l'expérience à Cholet un peu au préalable. Mais on va dire que tu vois, toutes ces questions de sommeil, de nutrition, ça peut être de micronutrition, ça peut être le chronotype, enfin, il y a plein de trucs que tu peux développer. Toi, comment t'as fait? Est-ce que tu étais prêt à faire face à tout ça ou est-ce que c'est de la formation continue? Et c'était quoi tes inspirations pour pouvoir réussir en tout cas, à faire face, à être performant finalement, autant que le joueur, quoi?
Ouais, formation continue sur beaucoup de choses. Après, faut jamais oublier le contexte des époques. On n'avait pas autant de data non plus à l'époque. Par exemple, le sommeil, c'était plus difficile à le traquer que maintenant. Voilà, il y avait des choses comme ça qu'on mettait en place. Alors nous, avec Kevin, c'était beaucoup la nutrition. Donc la nutrition, ça va. J'avais fait des formations là-bas en plus aux États-Unis et tout ça. Donc il y a des nutritionnistes en NBA aussi. Donc, de l'aide externe, tu vois. Et quelque part, en fait, dans ce niveau-là où l'exigence est très, 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 très haute en NBA, c'est vraiment une exigence. Bien sûr, tu peux ne pas avoir d'exigence et avoir du talent et machin, mais ça, c'est pas beaucoup de joueurs au final. Et tu as tellement d'exigences que l'athlète lui-même, tout seul, ne peut pas tous les jours répondre à cette exigence. C'est
C'est
impossible.
normal.
Ce sont des humains et ça pète un moment donné. Et en fait, ils ont besoin d'un mec comme ça, de l'extérieur, qui leur permet de tout gérer ça, tu vois, de dire, voilà, moi, par exemple, je sais qu'à l'époque, en niveau nutrition, c'était un nutritionniste qui envoyé le plan, qui m'envoie directement à moi le plan. Donc, tu vois, même les clubs, les franchises, quelque part, avaient un référent et ça les réconfortait aussi. Et de dire, voilà, le plan, il est là, le plan est là. Après, on peut modifier, bien sûr, des choses et tout ça, parce qu'on est au quotidien avec Kevin. Mais on avait un plan et en fait, ça favorisait tout ça, quoi. Ça favorisait l'exigence, ça favorisait, tu vois, bah, tu sais comment c'est, un joueur, un humain, tout le monde, des fois, tu te dis, ah, fuck, j'ai envie de manger n'importe quoi.
Ah oui, non, évidemment.
Et là, tu as un mec qui dit, non, non, on a préparé un truc, on a. Ah, ok, d'accord.
Bah oui,
Tu vois,
forcément.
donc, tu vois, c'était vraiment ça. Mais comme tu dis, un préparateur physique, c'est pas la muscu. Bah, c'est pas que la muscu.
Pas que la muscu. Ouais, c'est pas que le travail en salle de muscu.
Mais, ouais, je veux dire qu'à un moment donné, on était sur du 100%. Je veux dire, un préparateur physique, c'est un mec qui fait de la muscu et point barre, quoi. Moi, maintenant, je dirais presque, ça dépend dans le niveau où tu es et tout ça, bien sûr. Ça dépend quel joueur tu as, ça dépend à quel moment de leur carrière ils sont. Moi, tu vois, avec Rodrigue qui est sur ses 35 ans, avec Kevin qui avait ce corps en NBA et tout ça, en finale, c'est pas sur la muscu qu'on va le plus. On a bien sûr un travail, mais c'est pas là où là on va le plus. Ça peut être aussi sur les appuis. Moi, je trouve qu'un préparateur physique, ce qui fait la différence entre deux préparateurs physiques à l'heure actuelle, c'est pas les méthodes de muscu forcément, parce qu'on les a toutes, mais c'est la qualité de tout ce qui va être le travail d'appui et tout ça. Et puis, bah, après, tu développes, ouais, toutes ces compétences-là, mais on ne peut pas être résumé qu'à de la musculation. C'est pas possible.
Non, mais malheureusement, c'est un peu le cas, tu vois.
Exactement, ouais.
Un peu le cas. Après, on a deux poids, deux mesures, parce que moi, là, dans mon contexte, on n'est pas sur des athlètes qui jouent en NBA encore, c'est des athlètes professionnels, mais on n'est pas dans les mêmes contraintes, il n'y a pas les mêmes ressources financières de la part des clubs. Donc, ils sont pas toujours le. Enfin, et puis même, les dirigeants, les bureaux directeurs n'ont pas toujours les compétences pour juger de la compétence et de l'utilité d'un gars qui va venir. Travailler sur la prépa physique ou qui va être responsable performance, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que finalement, toi, en étant coach performance, t'es presque plus sur des leviers qu'on va pas développer en club. Donc, c'est intéressant si tu vas pas, tu travailles pas dans le même sens que ce qu'on peut trouver déjà en club. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce qu'on entend souvent, tu vois, même dans le foot pro, il y a, je pense, encore plus de coach personnel. Et tu vois, moi, c'est une question que je me posais à un moment en me disant, attends, souvent, par exemple, j'ai une bêtise au Real Madrid, il va y avoir Benzema, il aura son coach perso, alors que dans le club, il y aura deux ou trois prépas. Et du coup, je me demandais comment ils agençaient un peu le travail ensemble. Est-ce que c'est, il n'y a pas un peu de redondance à certains moments? Est-ce que c'est forcément efficient? Et du coup, là, toi, tu me donnes une réponse qui est pertinente, qui montre encore que le rôle de prépa physique, ou en tout cas de coach, est largement plus large enfin, est beaucoup plus large que de la prépa physique muscu. Je reviens un peu sur ton arrivée en NBA, parce que c'est quand même, enfin, c'est, tu vois, il n'y a pas beaucoup, je pense, je sais même pas s'il y en a deux, des gars qui ont été en NBA travailler, des Français sur non-joueurs qui sont dans les staffs, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Toi, quand tu arrives là-bas, tu arrives dans un nouveau monde. Je pense que même à l'époque, la NBA, c'était quand même largement au-dessus de ce qui se faisait en France. C'est quoi tes premières impressions? Comment ça se passait avec Kevin? Tu pouvais aller avec lui, dans la structure des clubs. Comment vous gériez ça au final?
Alors moi, quand je suis arrivé, on va partir avec Kevin et Washington, donc j'avais déjà eu ce petit avant-goût avec les Spurs. Où là, je me rappelle la première fois que j'arrive aux Spurs, tu arrives dans une franchise qui est très sérieuse. Ils ont vraiment tout un pôle performance avec, si un jour tu y vas, tu verras, c'est incroyable, la salle de muscu et tout. Ils ont tout à disposition, quoi, voilà. Et là, j'étais impressionné. Je me dis, waouh, là, on est sur un autre monde et tout ça. Ils m'avaient fait découvrir des trucs qu'on ne connaissait pas à l'époque. Maintenant, c'est plus commun, comme l'Alter-G et tout ça, tu vois. Parce qu'à l'époque, avec Michael Finlay, je crois qu'il s'était fait une double entorse ou je sais pas quoi. Et puis il me dit, tiens, on va le faire courir, lui, et tout ça. J'ai rien, quoi. Comment ça? Comment vous faites? Bah, attends, on a un truc Alter-G. J'ai Alter quoi? Oh, putain, ok.
Ouais, c'est
Génial,
clair, ah non, c'est fou.
quoi.
Ah,
C'était
c'est
génial de
fou.
découvrir tout ça, quoi. Et puis, tu vois, toujours pareil, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux qu'il y a maintenant. Maintenant, tu peux connaître tous ces trucs-là, même sans jamais les voir. Mais à l'époque,
C'est
tu
ça.
n'avais pas. Donc voilà, quand j'arrive à Washington, c'est un autre délire. Pourquoi? Parce que déjà, je suis déçu de Washington et j'aime pas Washington.
La ville, le club.
La ville, j'aime
Ah
pas.
ouais, ah oui, ok.
Parce que moi, je suis arrivé la première fois au Texas, où
Ouais.
everything is bigger.
Ok,
Donc,
ah oui.
Tu as des gros 4x4, tu as des
Ouais.
gros buildings, tu as tout ce que
Ouais.
tu veux. Tu arrives à Washington, c'est une ville européenne. Tu dis, ah, pourquoi je suis aux États-Unis si c'est
Ah
européen?
oui, ok.
Ce côté-là m'énervait. Bon,
Ouais, ok.
bref, maintenant, c'est ma ville préférée de cœur, tu vois.
En même temps, tu y as passé du temps, du coup.
Voilà, ouais. Et après, la franchise des Wizards, en fait, bah, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que si Kevin m'appelle à l'époque, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose de fait pour les joueurs dans
Ah
la
ouais.
franchise des Wizards. C'est-à-dire, il y avait un préparateur physique qui est très bien. Pas de problème avec ça. Mais c'est toujours pareil. Un préparateur physique
Ah.
et 18 joueurs professionnels, dont des joueurs qui ont des contrats à 40 millions. Donc, tu vas mettre ta préférence sur qui? Les mecs qui ont 40 millions ou les mecs, les rookies qui, on ne sait pas si demain, ils seront encore là, tu
Ouais, non,
vois?
évidemment.
Et en fait, et voilà, c'est toute cette philosophie-là, moi, qui est arrivée dans ma tête, en fait, et que j'ai découvert. Je me suis dit, mais au final, je pense qu'il y a des choses à construire parce qu'il y a des gens qui sont mis sur le côté. Donc voilà, et après, ce qui était bien par contre avec les Wizards, c'est que dès le départ, ils m'ont rencontré.
Ok, ça c'est cool.
Ouais, ils m'ont rencontré, on a discuté, ils m'ont testé parce qu'on avait accès aux salles d'entraînement.
Ok.
Et après, nous on savait pas, mais tout était filmé et
Ouais,
regardé. Ils
ok.
regardent. La NBA, c'est ça, hein, ils te regardent tout, ils regardent aussi qui t'es sur tes réseaux sociaux.
Ouais, ok.
Commence à se renseigner, il commence à savoir si t'es un mec qui sort, ça se
Ouais,
trouve.
ok. Ouais.
Et au final, très très vite, en fait, le truc a bien matché. Pour te dire, c'est eux qui, en fait, qui ont sponsorisé mon visa de travail.
Ah oui, ok.
Donc, tu vois, mon visa de travail sur mon passeport et tout ça, c'était marqué Washington Wizards, quoi. C'est eux
Ok.
qui m'ont sponsorisé, quoi, tu vois. Parce que, en fait, le peu de temps que j'étais avec Kevin, ils ont vu que Kevin travaillait bien avec moi, en fait.
Ouais.
Et qui avait des résultats, qui commençait à perdre du poids, qui reprenait de la confiance, qu'il avait aussi un peu cette envie, ce plaisir, quoi, tu vois, parce qu'il avait pas un pote, mais un mec, un Français avec lui, qui, bah, ça le soulageait, en fait, de beaucoup de
Ouais,
choses.
forcément. Ouais, bah
Et
oui.
du coup, ils se sont dit, OK, let's go, vous matchez tous les deux, c'est parfait, machin. Et puis fin de saison, j'avais un rendez-vous avec le staff des Wizards. Ils disaient, voilà, nous, on aimerait que tu fasses ça, 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 cet été avec Kevin.
OK.
Quel est ton point de vue, toi? Quelle est ta vision? Moi, je disais, tiens, moi, je vais faire ça, ça, ça. Ok, tu peux nous donner des infos pendant l'été, machin. Ouais, carrément.
Ouais.
Donc, tu vois, ça, c'était vraiment super cool. Les Knicks, c'est notre pire saison.
Pourquoi?
On a foiré la off-season.
Ah. Ah
On a
merde.
foiré la off-season. Pourquoi? On l'a foiré pourquoi? Parce que, tu vois, quand on disait tout à l'heure, il faut avoir plusieurs compétences. Parce que c'était l'année où Kevin, 2015, je crois, il est en fin de contrat avec les Wizards, il fait des bonnes stats. Alors, la NBA, ça, c'est plein de trucs. Hein. Kev a toujours fait des stats, puis des fois, tu te retrouves à plus jouer pendant 3-4 matchs parce que ta cote, elle est trop haute, donc il faut la redescendre, machin.
Ouais, ok.
Bon, bref. Et en fait, cette off-season-là, Kevin arrive en tant que free agent en se disant, je vais avoir des contrats, je vais avoir des contacts, je vais avoir des machins et tout ça. Et puis, au pire, les Wizards vont me garder parce qu'ils voulaient le garder, quoi.
Ok.
Et il n'y a aucun club qui arrive.
Ah merde.
Et là, ça tue le gars, en fait.
Ben
Le gars n'arrive plus à se concentrer sur l'entraînement. Il se concentre sur mais
oui.
pourquoi, mais comment, qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que je suis bon, est-ce que j'ai le niveau, où
Ah
est-ce que je vais être, où est-ce que machin. Et là, ça y est, c'est parti.
ben.
Et en fait, on a travaillé, bah, tout l'été, on a essayé de relancer la machine mentalement tout le temps, machin, mais il n'y avait plus ce truc-là, et surtout on a été pris avec les Knicks qu'à la fin de l'été, quoi.
Ouais, ok.
Ça veut dire que pendant
Ah
3 mois,
oui.
tu sais pas ce qu'est fait ton avenir, quoi, tu vois.
Ouais.
Et pour récupérer le joueur, c'était super dur. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a foiré cette off-season parce qu'il n'y avait pas la concentration pour. Après, on a pu la rattraper dans l'année, mais voilà. Et puis les Knicks, c'est particulier. Là, du coup, j'avais pas accès, moi, j'avais rien, j'avais pas du tout
Ah oui.
accès. Une fois, on a été dans la salle des Knicks s'entraîner à 10h30 le soir, un truc comme ça, tu vois.
Ah
Tout le
oui,
monde
ok.
qui sort du shoot ou je sais pas quoi, un truc bateau, quoi, tu vois.
Ouais.
Et t'as un mec qui arrive. Et t'as un mec qui arrive et il nous dit non, 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 vous avez pas ton coach, il a pas le droit d'être là, parce qu'à l'époque, c'était Phil Jackson.
OK.
Phil Jackson a une
Ouais.
philosophie avec ses trois cercles que j'ai jamais compris. Mais si tu fais pas partie de ces trois cercles-là, tu amènes une autre
Ouais,
ambiance, énergie dans les lieux, machin. Là, là. Et le gars nous avait suivis en caméra, quoi. Dès qu'on rentrait, il y avait un mec qui était.
What? Ah oui.
Après, les Knicks, c'est particulier. Et puis il y a tellement de stars, tellement de trucs, tellement de. Ça
Ouais.
spécifie tout le monde, en fait.
Ouais, je vois. Ouais,
Tout le
mais
monde.
c'est.
Et j'arrive à comprendre.
Ouais, dans un certain point de vue, on peut comprendre. C'est ce que j'entends, tu
Ouais.
Moi qui ai pas du. Enfin, là-bas, je suis pas du basket. Alors, je suis fan de sport, donc je me renseigne sur tout. Et c'est vrai que là, cette année, j'ai pris beaucoup de temps pour essayer de regarder un peu bah, la NBA, l'Euroleague, parce que j'aime bien l'Euroleague. Et souvent, de ce que j'entendais, c'est les Knicks. Et même, c'est autre chose. C'est une équipe dans la NBA qui est complètement différente en termes d'ambiance. Et ça peut être
Ouais.
un peu dur pour un joueur d'y aller, surtout pour les jeunes, de se retrouver à New York, parce que c'est autre chose, quoi. Donc, c'est dommage après, parce qu'eux, ils sont perdants finalement. Ils sont perdants s'ils comprennent pas l'intérêt d'avoir d'inclure le gars qui travaille avec un des joueurs, c'est bête. Parce qu'en fait, on travaille, enfin finalement, tu travailles quasiment avec le staff. C'est ce que tu dis au Wizard. Tu étais quasiment bah, avec le staff. Tu es un prépa individuel d'un des gars, mais si eux te donnent la confiance, c'est cool. Parce que là, on fait du bon boulot et c'est top en vrai. Ah oui, ok. Et
Ouais, mais
après.
tu vois, et après, c'est bon, c'est toujours pareil, il faut voir les deux côtés de ce que tu dis, tu as raison, mais n'oublie pas, comme je viens de dire aussi, on est arrivé au Knicks, mon gars n'était pas in shape.
Oui,
Et là, on
ok.
dit pas, c'est mon préparateur physique. Hein?
Ouais, il a
Tu
rien
vois?
préparé. Ouais.
Donc, peut-être il y a de la méfiance et tout ça, en plus du fonctionnement du club qui est vraiment très particulier, quoi. Et
Ouais.
après, quand on va aux Pacers, pareil, au départ, ils sont prudents. Et puis, au fur et à mesure de l'année, en fait, ils voient que ah ben non, c'est bon, nanana, les portes commencent à s'ouvrir, tout est bien, machin, nanana.
Ouais.
Et puis, bah, là, après, Kevin a été coupé sur la première année. Alors, il a été coupé pas par rapport à sa performance, c'est toujours pareil, c'est par rapport au contrat.
Ouais, il y a d'autres enjeux.
Ouais, et puis, la chance ou la malchance, le timing, tu vois, il a donné une interview récemment, là, qui est pas mal. Et il expliquait, en fait, c'est que la deuxième année, t'as Paul George qui est coupé, là,
Ah oui.
qui part, la star. Ça veut dire qu'il y a un autre angle du club qui va se mettre. Et le big boss, c'était Larry Bird. Et c'est Larry Bird qui a fait venir Kevin parce qu'il
Ouais.
le voulait depuis 3-4 ans. Et il a été également viré.
Ouais.
Et là, en fait, tes supports sont plus là, quoi.
Ouais, forcément,
Tu
ouais.
vois?
J'ai entendu l'interview, c'est à First Team, je crois, ou un truc comme ça. J'ai entendu
Ouais.
l'interview. Ouais. C'était intéressant de voir qu'il y a, en fait, en NBA, c'est pas que du sportif. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu.
Bien
Et un
sûr.
gars, ouais, c'est cruel, mais en même temps, c'est comme ça. C'est le sport de ce niveau-là et le business, quoi, sport business en même temps. Donc, et
Ouais.
toi, une fois que là, du coup, il finit les Pacers, tu reviens en Europe. Est-ce que toi, t'aurais aimé rester là-bas? Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là?
Honnêtement, la fin des Pacers, quand ça s'est arrêté, j'ai eu un coup. J'ai eu un coup pendant 3-4, j'étais mort.
Ouais.
En fait. Tu te rends compte que toute l'énergie que tu as mis pendant 7-8, tu es dedans, donc ça va.
Ouais.
Et puis ça s'arrête, tu as ce truc-là, là, et en fait, tu dis, en fait, je suis mort, je suis crevé, je peux plus avancer, quoi, tu
Ouais,
vois.
tu m'étonnes.
Je veux même te dire un truc, c'est qu'à l'époque, je te jure, hein, tu me demandais de faire un programme, même pour un pote, je savais pas faire.
Ouais, ouais, je vois.
Je savais pas faire. Je
Ouais.
dis, bah, je sais pas, en fait, je fais quoi, j'en sais rien. Tu vois, c'était vraiment vidé.
Ouais, t'as fait une sorte de burn-out, enfin t'étais au bout, quoi, t'es.
Ouais, c'est ouais. Alors, Bernard, je sais pas, mais c'était une grosse fatigue. Ouais, ça doit être ça, je sais pas.
Bah si, ouais, après chacun, enfin, les dépressions nerveuses, etc. Il y a différents, je pense, différentes expressions de ça, mais ça ressemble un peu à ça quand même, quoi. Après, en même temps, c'est pas étonnant.
Parce que après, tu vois, quand tu es coach privé comme moi, en fait, tu es vachement rattaché à la performance du joueur. C'est-à-dire, moi, par exemple, les matchs, tu les regardes pas comme si tu es un spectateur.
Ouais.
C'est-à-dire, tu es concentré sur ton joueur, tu es concentré sur le temps de jeu, tu es concentré sur la performance, tu réfléchis, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, qu'est-ce qu'on va faire, comment je vais
Bien
parler avec
évidemment.
lui. Donc, au final, tu vois pas tous les matchs, on voit quasiment, bah, tu les vois, mais sans les voir. Et en fait, tu es vachement impliqué nerveusement, quoi.
Bah ouais, non, évidemment. Mais ça, tu vois, mon échelle cette année, je l'ai vécu aussi alors que je suis pas en NBA. Donc j'imagine bien que là, dans une sphère, dans une atmosphère comme ça, c'est pas forcément facile, facile. Et du coup, pendant tes. On change un tout petit peu d'orientation, mais du coup, sur toute ta période aux États-Unis, finalement, toi, t'es dévoué à un joueur, t'es dévoué à un projet de perf, et toi, t'arrives à trouver ton équilibre de ton côté, ton équilibre personnel, etc. Comment ça se passe, ça, cette gestion-là?
C'est assez dur. C'est assez dur pourquoi? Tu es dans un des meilleurs environnements du monde. Je me rappelle quand je suis arrivé moi à Washington, quelqu'un qui est devenu un ami, un Français là-bas, il me dit bienvenue, tu fais partie du monde des 1%, quoi. C'est-à-dire tu es dans un monde de la NBA qui n'est pas réel.
Ouais.
Tu vas y avoir le droit.
Ouais.
Des trucs tout cons, hein. Une fois, je sais plus, j'avais un avion, j'étais en retard, j'ai dû accélérer un peu, tu vois. Fait arrêter par les flics. Je descends la vitre, machin, là. Il regarde mon passeport, tout ça, et je fais Washington Wizards. J'explique, je dis coach privé, Kevin Sarafin. Oh, ok, let's go, you can go.
Ok,
Voilà.
ouais,
Dans un monde qui t'es dans un monde qui n'existe pas, quoi, tu vois.
t'es complètement.
Et puis après, moi, là où j'ai toujours eu du mal un peu, où il a fallu que j'ai pris du temps pour m'y habituer,
Ouais.
c'est comme je te dis, je viens d'une ville de 5000 habitants.
Ah
Et
oui.
l'une des plus grandes villes que j'ai faites ensuite, c'est Cholet.
Ah oui,
Et maintenant, j'arrive dans ce monde-là qui n'est pas normal, en fait.
c'est sans transition, quoi. C'est
Ouais,
sans
et en fait,
transition.
j'étais toujours dans ce balance. Est-ce que j'en profite? Est-ce que je reste pro?
Ouais.
Est-ce que, tu vois, tu es toujours dans ce balance? Est-ce que c'est bien? Tu es un peu perdu, en fait.
Ouais, je me doute
Après,
bien.
tu commences petit à petit à trouver ton équilibre. Mais l'autre problème en NBA, c'est que tu peux être transféré toujours du jour au lendemain. Donc, les attaches, tu ne les as pas forcément non plus. Tu vois, à
Ouais.
Washington, on est resté 5 ans, donc j'ai des amis là-bas. Mais à New York, 1 an.
Bah,
Et
t'as
en
pas
plus,
le
j'ai fait
temps.
tous les déplacements avec les Knicks cette année-là.
Ah ouais.
Donc, en fait, j'avais personne à New York, quoi.
Ouais, ok, je vois.
Alors, et pourtant, j'ai jamais eu autant d'amis de ma vie.
Ouais, ok, je
Depuis
vois.
que j'étais arrivé à New York, j'ai eu tellement de messages. Ah, Seb, comment ça va? Je dis, t'es qui, toi?
Comme par
Peux m'avoir
hasard.
des tickets pour les Knicks,
Ok.
machin. Mais tu vois,
Ouais,
mais ça
ok.
aussi, ça joue sur ton truc, en fait. C'est qu'à la fin, tu te protèges vachement.
Ouais.
Et puis, les réseaux sociaux qui apparaissaient aussi, avec Instagram et tout ça. Et tu vois, par exemple, l'épisode où Kevin ne peut pas aller en équipe de France,
Ouais.
et ben, lui comme moi, on a reçu des menaces de mort.
Ah oui, ok. Ouais, ça dépasse le cadre du sport, quoi. C'est
Tu vois, des insultes, des trucs comme ça.
ouais.
Et tu te dis, bah, ça fait partie de ce job-là. Donc en fait, on s'est créé un univers, on s'est créé une carapace, toute une protection pendant 8 ans dans ce monde-là.
Ouais.
C'est après, quand tu pars de ce monde, comme je te disais, et que tu reviens ici, et bah, tu es méfiant de tout, tu es un peu parano.
Ouais.
Tiens, quelqu'un qui veut t'aider, pourquoi il veut m'aider lui? Tu vois?
Ouais.
Tu vois, tu es
C'est ouais, t'es
vraiment.
matrixé. Au final, toi, en étant dans ce cadre-là, t'es quasiment dans le même statut. Enfin, on s'entend, mais t'es quasiment dans la même gestion de carrière qu'un joueur. En fait, t'as des problématiques similaires en termes de gestion, en termes de relations aux autres, et ça pas, c'est pas forcément, c'est pas tout rose en fait. C'est pas forcément que tout rose, tu vois. Moi, en tant que jeune prépa, tu me dis demain, ouais, Sam, est-ce que tu veux aller en NBA? Je te dis mais, 1000 fois. En fait, on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Il y a forcément le revers de la médaille à un moment, et c'est pas si facile que ça
Ouais. Mais il faut y
d'être
aller.
là-bas.
Mais il faut y aller, c'est clair et net. Il faut y aller. C'est juste un autre monde et il faut se préparer. Et c'est là où souvent, moi je trouve, je vais dire la France, mais je pense que c'est l'Europe, tu vois. Parce qu'on est en France, hein, mais c'est l'Europe. On ne nous prépare pas forcément sur les bonnes choses. Nous, les préparateurs physiques, mais les athlètes également.
Ouais.
Et ça, c'est des discussions que j'ai eues beaucoup avec beaucoup de joueurs, en fait. Et alors maintenant, ça se démocratise un peu. Par exemple, il faut. Kevin est arrivé en NBA, il ne parlait pas anglais.
Ouais, c'est chaud. Ouais.
Parce que dans la formation, il n'y a pas il n'y a pas un module où tu te dis,
Ouais.
voilà, tous les joueurs, tous les espoirs devraient parler parfaitement anglais,
Ouais.
puisque les moyens de communication, c'est l'anglais. Les réseaux sociaux, Kevin, on sait qu'il s'est fait taper sur les doigts quand il était en NBA avec les réseaux sociaux, parce que je pense que moi, il avait de l'avance sur tout le monde. Par rapport à ça, parce que maintenant tout le monde utilise des réseaux sociaux. À l'époque, tu disais, ah, c'est mal, et na, na, na. Maintenant, tout le monde le fait. Donc, au final, c'était pas si mauvais que ça.
On était en train de dire, enfin, tu étais en train de me dire que tu trouves que les athlètes en Europe sont pas forcément préparés pour faire face à ce qui les attend outre-Atlantique, ou même de manière générale dans la formation. Tu fais bien de le dire, tout ce qui est les aspects langue anglaise, gestion des réseaux sociaux, etc. Je suis d'accord avec toi. Après, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans, enfin, est-ce que ça évolue pas aussi un petit peu ces dernières années? J'ai un peu l'impression, tu vois, que sur la nouvelle génération d'athlètes, ou même de manière un peu plus générale, hein, les jeunes d'aujourd'hui savent un peu mieux utiliser et un peu mieux maîtriser ces réseaux-là. Mais c'est vrai que parfois, il y a peut-être des débordements, ou en tout cas, être un peu plus cadré serait peut-être quelque chose de cohérent, ouais.
Ouais, et puis bon, et après, il n'y a pas que ça. Moi, je pense que il faut que les joueurs, comprennent un truc, c'est que c'est leur boulot. Il faut qu'ils soient des businessmen. C'est là où les Américains sont forts. Les joueurs, les athlètes américains sont des businessmen. Dans tout, négociation, rapport avec la presse, rapport avec les agents, etc., etc. Et moi, je pense que l'un des échecs qu'on peut avoir, on voit bien, on envoie beaucoup de jeunes en NBA chaque année,
Oui, c'est vrai.
qui ont du talent. Ce n'est pas une question de basket, ils l'ont. Mais ils ne sont pas prêts mentalement, je pense. Ils ne sont pas prêts. C'est un monde de requins dans lequel ils vont. Et je pense que nous, on est gentils. parce qu'on recrute toujours sur la gentillesse, sur le bon mec.
Ouais.
Le problème là-bas, c'est qu'ils sont pas gentils.
Ouais.
Je veux dire, c'est pas des gens, ils vont pas te faire des crasses. Mais business is business, comme disent les Américains, tu
Ouais.
vois.
Ouais, complètement.
Et tu vas arriver aussi dans des ligues où on va te dire, ok, t'es bon, c'est bien, mais devant toi, il y a un mec qui vaut tant de millions.
Ouais, donc c'est mort. Ouais, je vois très bien. Là,
Et
c'est
t'es pas prêt à ça, en fait. T'es pas prêt à ça.
ouais, clairement. C'est du sport business, quoi. Clairement, c'est
C'est du sport business, ouais.
ouais.
Et il faut que chaque joueur devienne son propre entrepreneur, en fait. Il faut qu'il devienne
Ouais,
l'entrepreneur de lui-même, quoi.
c'est aussi pour ça, je pense qu'on voit de plus en plus, en tout cas pour les Français qui l'expriment un peu dans les reportages, on le voit, tu vois. Tout, finalement, il y a le staff de l'équipe, mais en fait, chaque joueur a son staff maintenant, son chef, comme tu disais, son prépa, son prépa mental, son tout ça, quoi, son kiné, son ostéo, et tu crées ta team, en fait.
Et tu vois ce que tu dis par exemple, parce que nous au départ avec Kevin, quand on lance ça en 2010, moi je me rappelle, je fais une émission radio, je me fais démonter.
Ah ouais?
On m'invite et on me démonte. En gros, on me dit, mais ça sert à rien ce que tu fais, pourquoi, je comprends pas, il y a des
Ouais.
préparateurs physiques, nanana. Parce qu'à l'époque, c'était pas courant. Maintenant, tout le monde a son truc.
Bah oui.
Là-dessus, il faut toujours se dire, tiens, si ça a existé dans ce sens-là, là on est en 2023, on peut aussi des fois avoir des visions de choses. Et les gens vont te traiter un peu de fou.
Ouais.
Et puis au final, tu vas te dire, bah,
Dans 10 ans.
et tu vois, et moi, ça a toujours été mon truc, en fait, essayer d'avoir un temps d'avance sur le coaching, sur l'art du coaching.
Ouais.
Et comme je te disais, là, ce que j'ai lancé en gérant Rodrigue à distance, comme je te disais, en récoltant les datas, en étant un suivi, un guide, machin, nan, mais pas forcément avec lui, tout ça. Pareil, il y a 4-5 ans, quand je lance ça, on me dit, ouais, c'est pas possible, nan,
On
nan.
sera pas.
Maintenant que Rodrigue, il fait ses meilleures saisons de sa carrière, qu'il n'a plus de blessures, on se dit, bah, en fait, ça marche.
Ouais, je vois. Ouais.
Tu vois, donc il faut toujours se méfier ou alors il faut se nourrir de ce que disent les gens.
Ouais.
Tu vois, et c'est des trucs comme ça. Moi, je me rappelle, il y a quoi, en 2008, tu sais, j'avais fait un travail avec les gars, en fait, et je trouvais que c'était intéressant de mettre du poids que sur le côté d'une barre, par exemple.
OK.
Tu vois, pour travailler sur la force unilatérale, la stabilité, nanana. Et ça se faisait pas non plus ce truc-là, tu vois. Maintenant, des fois, je vois des trucs, je dis, ah tiens, maintenant ils le font, maintenant ça passe.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair que finalement, bah, de toute façon, surtout dans le monde du sport et la science du sport, tout évolue très vite en fait. Et je pense que le terrain fait des choses que la science prouvera plus tard. Donc en fait, ceux qui sont en avance, ceux qui sont un peu voilà, en avance, enfin, comme tu dis, c'est dans quelques années, ça va être entre guillemets validé par tout le monde, tu vois.
Ouais.
Et parfois, peut-être on se trompe, hein, évidemment, mais faut essayer, et c'est
C'est pour
erreur et
ça
c'est réussite.
qu'il ne faut pas mettre non plus trop de limites dans le processus de développement d'un joueur ou dans les techniques d'entraînement, des trucs comme ça. Si Steph Curry ne met pas ses routines d'avant-match et que Steph Curry devient Steph Curry, on ne voit pas un seul mec avant le match en
Ouais.
train de dribbler avec deux ballons, machin, nanana. Tu vois? Si on
Ouais.
avait mis, imagine, si on avait mis la limite à Nowitzki à l'époque, parce qu'il est grand, de ne pas tirer à 3 points.
Ouais. Et au final,
Tu vois, donc je pense qu'il faut vraiment, faut toujours se concentrer sur le joueur et voir ce qu'il y a de mieux pour le joueur, dans son ressenti, dans ce qu'il veut faire, de ne pas avoir de jugement dans ce qu'on apporte. Et essayer de voir justement si ça correspond à un joueur, do it, let's go. Moi, dans ma carrière, des fois, je me suis vu faire des trucs. Je me disais, voilà, oh là, si les préparateurs physiques me voient, je me fais démonter, quoi. Je me fais démonter. Mais le joueur avait besoin de ça.
C'est clair. Il y a toujours cet aspect
Physique.
psycho qui rentre évidemment en jeu.
Bien sûr.
Mais tu vois, moi, en tant que jeune prépa, jeune coach, étant donné que j'ai pas l'expérience que toi tu peux avoir ou que d'autres coachs peuvent avoir, forcément, je base ce que je propose beaucoup sur ce que va dire la science, ce que va dire ce que je vais trouver pertinent. Et parfois, du coup, c'est ça, j'ai un peu de mal à être dans l'acceptation qu'il y a une part de non-contrôle, tu vois. De OK, bon, ça, on sait que forcément, c'est pas très pertinent, mais si ce gars-là, il en a besoin, bon, bah, vas-y. Et je pense que l'expérience, ça t'amène ça aussi, cette capacité à prendre du recul et à avoir la chose avec un autre angle de vue et accepter que parfois, en fait, c'est pas optimal, mais en fait, c'est aussi bien. C'est aussi bien, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Et puis comme tu dis, avec la différence d'expérience que tu peux avoir, moi, qui va venir me voir et me dire c'est de la merde ce que je
C'est sûr.
fais? Ouais, je veux
C'est
dire,
clair.
t'es qui en fait, tu vois? Tandis
Ouais,
que
c'est vrai.
quand tu débutes, bah, toi, tu veux continuer en fait. Donc, il faut bien faire les choses et tu vois, il faut essayer que les gens
Ah oui, tu veux avoir du
regardent et se
crédit.
disent,
Ah, c'est
ouais.
clair. Ah, évidemment, toi, entre guillemets, tu as fait T'as fait ton chemin maintenant, c'est juste essayer d'aller là où tu veux, mais c'est pas les mêmes process. Maintenant, moi je trouve ça intéressant quand même. Et pour rebondir là-dessus, là maintenant que tu reviens un peu plus en Europe, comment ça se passe ton quotidien? Parce que du coup, tu es sur du coaching individuel à distance. Tu vas voir les gars de certains. Je crois que je t'avais vu aller à Monaco en début de saison quand Adrien il y était. Mais comment ça se passe? T'es salarié de deux joueurs, t'es salarié d'un joueur, enfin comment tu gères ton quotidien? Où est-ce que tu vas quand t'as pas de travail réellement, enfin quand t'es pas avec les gars, comment ça se passe tout ça?
Ouais, bah moi je suis retourné sur Rennes là en fait,
Ok.
chez moi, hein, la belle Bretagne. Et comment là en fait moi c'était une de mes volontés, c'est-à-dire de continuer à travailler avec des athlètes de haut niveau, mais je veux aussi mon équilibre vie perso maintenant.
Ouais.
Et voilà, j'avais besoin de ça. Et c'est là où je te dis que j'ai développé toutes ces techniques où on peut récolter des datas facilement et compagnie. Après, avec les joueurs que j'ai, en fait, c'est des contrats que j'ai avec les joueurs.
OK.
Donc, ce sont les joueurs qui me payent. Hein. Et puis, on essaye régulièrement. Alors, ça dépend, parce que les dernières années, en plus, avec le Covid et tout, c'était galère avec les voyages. Mais si tout va bien, s'il n'y a pas de pandémie mondiale, on essaye quasiment toutes les 6 semaines de se checker. Je vais les voir, quoi.
Ouais, donc il y a quand même ce suivi à un moment en réalité, quoi.
Bien sûr, ça ne peut pas être que à distance. C'est pas possible parce que tu as besoin de voir le joueur, tu as
Ouais, non,
besoin
c'est
de
clair.
choses, tout ça, même si on peut faire beaucoup de choses à distance maintenant. Et puis, il y a des choses aussi que tu vois, je te parlais des appuis, par exemple. Je n'ai pas encore trouvé ce moyen de travailler les appuis avec un joueur en n'étant pas à côté de lui, quoi.
Ah oui, évidemment. Ah, c'est
Parce qu'à la
sûr.
limite, une séance de muscu, tu peux t'envoyer un programme. Voilà.
Ouais, ça c'est facile.
Mais tout ce qui est appui, tout ce qui est réactivité, tout ce qui est toutes ces choses-là, c'était pas à côté. J'ai pas encore trouvé. Il y aura peut-être des capteurs dans un
Ouais,
futur jour dans le programme.
c'est
Mais pour
clair.
l'instant, j'ai pas trouvé. Et puis après, tu vois, sur l'introduction, parce que je t'ai pas dit ça non plus, mais parce qu'en plus, à l'heure actuelle, je m'occupe de la sélection nationale de la Tunisie.
Ouais, j'avais vu ça. Ouais.
On a une obligation d'être la moitié de l'année là-bas, en fait.
Ah oui. OK.
Donc après, on a des. Par exemple, là, tu vois, je pars tout le mois, là. Je pars la semaine prochaine, là, et tout le mois, je suis là-bas.
OK.
Tout le mois d'août, je serai là-bas aussi. Donc, tu vois, c'est des gros blocs. Parce que c'est une sélection nationale qui est structurée un peu différemment, puisque nous, on n'intervient pas que lorsqu'il y a des compétitions.
OK.
On intervient plus largement, en fait, avec les joueurs. Donc, c'est un peu un fonctionnement de club, mais on est une sélection nationale.
Ah, ok, moi je vois ça dans le volet, il y a ça dans certains pays aussi. Ok. Et du coup.
Mais en gros, c'est pour essayer de contrebalancer un peu le manque d'entraînement là-bas, quelque
Ouais,
part, le
ok.
manque de connaissances, tu vois, qu'on vient régulièrement.
Comment c'est arrivé à toi cette opportunité-là?
Et bah, je t'ai parlé d'Herman Kunter à Cholet, je t'ai parlé d'Herman Kunter à Galatasaray.
Donc ce gars-là, il a été important finalement dans ton parcours et
Bien sûr, bien sûr.
Dans ta création d'opportunités, quoi.
Ouais, bien sûr. En fait, là, il est devenu sélectionneur en septembre parce que le staff d'avant n'avait pas eu les résultats ou je ne sais pas quoi pour la qualification à la Coupe du Monde.
Ok.
Et donc, Herman a été nommé. Direct, il m'a appelé, quoi. Il m'a
Ok.
appelé direct. Il m'a dit, voilà, moi, je veux un préparateur physique. Bah, je vais être avec toi et puis point barre. Mais tu vois, la chance que j'ai eue, moi, c'est ça. C'est donc, quand j'ai lancé ma carrière, c'est ma relation avec Herman Kunter, le coach. Parce que je me rappelle la première fois que je l'ai vu, en fait, je lui ai dit clairement, on a été mangé, parce que j'avais été un peu déçu à un moment donné, comment certains coachs pouvaient aborder la préparation physique. Et au début de ma carrière, au bout de 6 mois, je m'étais dit, ouais, voilà, ça vaut pas le coup, n'y crois pas, machin. Et en fait, quand Herman arrive à Cholet, j'ai directement mangé avec lui, je lui ai dit, est-ce qu'on peut manger ensemble? Il me dit, ouais, bien sûr. Et je lui ai dit, écoute, pour toi, la préparation physique, c'est important ou pas? Voilà, ça, t'es cash. Hein. S'il te dit, oh, je m'en fous un peu, tac.
Ouais.
Et en fait, lui, il m'avait dit, ça m'avait sûrement choqué à ce moment-là, il m'avait dit, bah, pour moi, t'es plus important que moi, en fait.
Ouais, je
Parce que
vois.
c'est grâce à toi que je peux faire ensuite ce que je veux avec mes joueurs. Waouh, choc de culture, là, tu vois.
Tu
Et
penses ça,
tu vois.
tu penses que ça, c'est culturel ou c'est vraiment dépendant de la personne ou c'est il y a certains endroits du monde, certaines cultures, certains pays où il y a vraiment une manière différente d'aborder l'entraînement, etc.
Bah, aux États-Unis, c'est différent, c'est
Ouais,
sûr.
oui, c'est clair.
Je pense que je crois que j'avais entendu parler en Australie, c'est un peu aussi comme ça.
Ouais.
Après, là, en effet, c'est plus la personne, je pense, qui a cette vision-là. Parce que les Turcs, il n'y a pas des préparateurs physiques dans tous les clubs ou des trucs comme ça. Donc, je vois pas que n'y a pas de spécificité à la Turquie, je pense pas.
Ouais.
Mais en tout cas, oui, avec lui, ça a matché. Et puis voilà, et puis on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin, on se comprend tout de suite.
Ah, ok.
Et tu vois, moi, par exemple, dans les séances d'entraînement, ce qu'on parlait tout à l'heure,
Ouais.
c'est moi qui dis quand on arrête, c'est moi qui dis tiens,
Ouais,
là, on peut plus encore, c'est moi, tu vois, donc lui, il me donne ce droit-là.
ok. Ouais.
Et ce que j'adore aussi avec Herman, et ça, c'est un truc qu'il faut qu'on arrive à creuser en France, parce que, une fois de plus, France-Europe.
Ouais.
Une fois de plus, comment. Quand tu es coach de basket, tu es coach. Okay? Quand tu es assistant, tu es coach. Quand tu es préparateur physique, tu es coach. On est d'accord avec ça.
Ouais.
Et quand tu es kiné, par exemple, ou médecin, tu n'es pas coach. Donc, c'est des particularités qu'on a.
Ouais.
Mais en étant coach, on n'a pas le même statut que le coach et l'assistant coach.
Non.
Tu vois? On est, en général, de tout ce que j'entends, moi, peut-être moi, mon rôle différemment, mais de tout ce que j'entends, c'est on est un peu la dernière roue de secours.
Non,
Le
complètement.
gars qui est là. De toute façon, on n'intervient jamais, on fait juste de la musculation et puis basta, quoi. Je veux
Ouais.
dire, c'est ça. Hein. Moi, par exemple, là, avec la sélection nationale, Herman, à la fin du premier camp, il a donné son avis sur le groupe. L'assistant a parlé et j'ai parlé.
Ouais.
Je fais partie vraiment du staff. Je fais vraiment partie. Je suis un coach spécifique dans
Sur
la
cette
préparation
partie-là.
physique, la performance et tout ça. Mais j'ai le même statut
Ouais.
qu'Herman ou que
Ouais.
l'assistant Toulouse.
C'est, tu vois, c'est hyper, enfin, c'est vraiment, ça rebondit sur tout, enfin, tous mes questionnements actuels, parce que tu vois, moi, je suis clairement dans une période de ma vie où je réfléchis à tout ça, où je me dis que j'investis beaucoup sur moi-même, tu vois, je me déplace, je lis, je paye des formations sur la prépa physique, la prépa mentale, la nutrition, l'entraînement, pédagogie d'entraînement, etc. Et t'es pas le premier, tu vois. J'entends beaucoup de coachs expérimentés dire ça, dire ouais, en gros, le prépa physique, c'est. Bah, il est en dehors du staff, tu vois. Il est en dehors du staff, il est là, on lui demande d'être un prestataire de service. Allez, tu me fais 30 minutes d'échauffement, tu me fais 1 heure de muscu, et il faut que les gars soient bien. Mais il n'y
C'est
a
un
pas cette
animateur.
réflexion. Voilà, c'est un animateur. Et sauf que moi, c'est pas du tout ma vision de l'entraînement. Et encore plus, des fois, tu vois, on peut me dire, être un petit peu hautain, Samuel. Parce que tu vois, moi, j'ai même un peu plus loin, tu vois. Je me dis, aujourd'hui, quand t'es préparateur physique dans le haut niveau, souvent. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, on t'a demandé de faire 5 ans d'études minimum aujourd'hui. Souvent, on va demander une licence, un master, des DU, doctorant, moi-même. Quand tu es entraîneur, souvent, c'est un parcours fédéral, tu es ancien joueur, etc. Et quand tu vas discuter avec un entraîneur, tu vas essayer de demander un petit peu sa philosophie. Certains sont hyper compétents et d'autres, tu te rends compte qu'ils sont très bons sur l'aspect basket, mais dès qu'on parle un peu plus de management ou même de motivation, il n'y a pas de. C'est creux. Tu te dis, attends, en fait, il ne connaît pas grand-chose là-dedans finalement. Et moi, je me disais, bah, c'est cool, j'ai des billes, je peux lui apporter. Mais comme on est dans une relation hyper verticale, bah, il n'y a pas ça en fait. Et moi, c'est un truc qui me frustre énormément et sur lequel j'espère qu'il y aura de l'évolution. Et c'est la même chose dans moi, dans mes structures actuelles. Je me rends compte que, comme tu dis, quand tu parles avec le bureau directeur, tu te rends compte que bah, les dirigeants, ils voient l'entraîneur, ils voient le coach assistant. Et toi, tu n'es pas là. Par exemple, sur les feuilles de match, c'est des détails, mais sur les présentations de match, il y aura marqué coach assistant. Prépa physique, il est sur le banc, mais on ne parle pas de lui, tu vois. Et c'est un peu tout le temps ça qu'on retrouve. Et ça,
Sur
c'est un truc.
la photo officielle, le préparateur physique n'est pas
Pas
souvent
toujours là, ouais, c'est
présent sur la
clair.
photo.
Ouais, tu vois, c'est des trucs, c'est des détails, mais en fait, ça montre quand même bah, beaucoup. Bah, moi, je connais que la France pour l'instant, mais qu'en France, il n'y a pas ce recul-là et cette vision un peu holistique, tu vois, du truc. Alors que ça paraît con quand même, parce que si tu fais un peu un cadran des différents facteurs de perf, il y a forcément le technico-tactique, stratégique, mais il y a le physique, il y a le mental. Et finalement, souvent dans les clubs, j'ai l'impression qu'on nommait un petit peu ces parties-là. Au profit, comme tu dis, de spécialistes de la discipline. Et tu vois, c'est assez drôle parce que c'est un truc que j'ai là en étant dans ma structure actuelle au volet qui va rentrer dans le top 12 français. Donc ça commence à être normalement du haut niveau. Alors, c'est évidemment pas les mêmes développements que sur du basket parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux financiers, etc. Mais aujourd'hui, ce que moi, enfin, je me dis, les réflexions que j'ai dans les staffs du futur, ce serait pourquoi pas d'avoir évidemment un spécialiste de la discipline, un manager qui est sur bah, de la ressource humaine, sur du management, etc. Mais toujours également un gars qui est sur ses aspects physiques et mentaux à temps plein, parce qu'il a autant de choses à apporter que les autres. Parce qu'en fait, c'est pas méchant, mais quand tu as une joueuse de 28, 29 ans, volleyeuse professionnelle depuis 12 ans, tu l'apprends pas à faire du volley, faut être honnête. Tu apprends à appliquer un projet technico-tactique, mais 90% du temps, c'est de la gestion. C'est gérer les pépins physiques, surtout au volley où il y a énormément de sauts, et gérer la charge d'entraînement, gérer ces choses-là, pourquoi pas gérer les facteurs mentaux. Et finalement, les clubs, ils le voient pas comme ça. Ils disent, attends, mais pourquoi je vais payer un mec qui s'occupe de ces choses-là, là, il n'y a pas besoin. Enfin, bah, en fait, si. Et ça, on n'y est pas, je trouve qu'on n'y est pas du tout aujourd'hui. Et c'est compliqué, tu vois. Et toi, c'est intéressant que tu le mettes en avant, Parce que on va dire que ta voix a un peu de poids. Moi, quand je dis ça aux entraîneurs, on me regarde et on me rionne un petit peu en mode ah, vas-y, on va dans ta salle et arrête de me saouler. Alors qu'en fait, je pense que c'est le
Alors,
futur, quoi.
ok, une question simple, pourquoi vous m'avez embauché?
Ah, évidemment.
Donc,
Évidemment.
en gros, je suis pas utile, mais vous m'embauchez. Donc, qui est le con dans l'histoire?
Ouais, c'est clair. Non, c'est clair.
Donc, à un moment donné, si tu vas aller dans la performance, mais c'est typique ça. Si tu es dans la performance, il faut se donner les moyens. Point barre. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas forcément, et c'est ça qui est encore plus dur à expliquer, se rattacher directement au résultat.
Ouais, il y a process et résultats, c'est clair. Ouais.
Tu vois? Et c'est ça qui est dur à comprendre pour les gens. Et puis d'une certaine façon, je suis désolé, mais en France, ouais, beaucoup de clubs ne sont pas pros, c'est tout.
Ouais, c'est clair. Ouais,
C'est
complètement.
tout. On va pas tourner autour du pot. On n'est pas les seuls à le dire. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Voilà, on n'a pas cette philosophie. On n'arrive pas à comprendre l'intérêt. Moi, depuis que je suis retourné en France, voilà, je vais te donner un truc qui est très simple. Depuis que je suis retourné en France, j'ai zéro contact. Je n'ai que des contacts à l'étranger.
Ah ouais, ça c'est
Et
fou.
je veux plus aller à l'étranger, tu connais.
Merde.
Mais j'ai personne. Les gens savent que je suis là. Les gens, tout
Ah.
le monde sait que je suis là. Mais quand je te dis aucun contact, je te parle des clubs pro.
Ouais.
Te parle aussi des ligues, même des comités départementaux.
Ouais. Après,
Parce
peut-être
que.
après. C'est que toi, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, peut-être qu'il y a un certain nombre de clubs qui disent on va même pas l'approcher, dans le sens où, de toute manière, tu vois, c'est un peu gold. C'est vas-y, un comité ou une ligue va peut-être se dire de toute façon, jamais de la vie sera intéressé. Tu vois ce que je veux dire? T'as atteint un gratin maintenant qui fait que peut-être c'est un peu compliqué de. T'es devenu presque inaccessible, mais sans le vouloir, tu vois. Mais
C'est
c'est
ça,
un peu
mais
ça
c'est
aussi.
clair parce qu'on est là tous pour progresser, on est là pour essayer. On est si déjà tu as cette philosophie de te dire ce gars-là il n'est pas accessible, yana, yana, ça veut dire que toi déjà tu n'es pas prêt dans ta tête
Ouais, c'est vrai.
à t'améliorer,
Mmh.
à aller vers le haut niveau. Il faut
Complètement.
tenter, il faut. Le mec dit non, le mec dit non, ok, mais tu as tenté les choses, il faut aller
Ouais,
vers
c'est
l'avant,
clair.
tu vois. Bah, tu
Ouais,
vois, c'est
c'est clair.
exactement ça. On se contente.
Ouais, je suis d'accord.
Et ça marche. Donc, tout le monde est bien. Pas de problème. Tu vois? Parce que, voilà, sans me lancer des fleurs, tu vois, c'est pas la philosophie, ce que j'ai. Mais tu te dis, avec la carrière que tu peux avoir,
Ah,
il y a
c'est
des choses
clair.
à apprendre, là.
Ah, mais je suis d'accord, je suis complètement
Tu vois?
d'accord.
Non, c'est pas ça. Tu vois?
Ah, et en plus, souvent, tu vas entendre le truc de ouais, parce que financièrement, on peut pas, mais il faut arrêter. À un moment, même en Betclic Elite, aujourd'hui, il y a des clubs qui ont plusieurs millions d'euros. Tu vois Monaco, tu vois l'AZ, tu vois derrière. Je pense qu'il y a les finances pour mettre des choses en place. C'est pas tellement ça. Au final, il y a moyen de faire des choses. Il y a moyen de faire des choses.
Non, justement, c'est mal utilisé l'argent, le budget. Parce que tu mets. Quand des joueurs se blessent et tout ça coûte combien aux joueurs? Ça coûte combien au club?
Ça coûte rien normalement.
Bah, ça coûte rien, tu dois quand même faire venir un autre joueur, tu dois encore
Ah oui, ok,
retravailler.
oui, non, mais je dis au niveau
Ça, tu
assurance, etc. Ah oui, non, je vois ce que tu veux dire, tu prends le problème à l'inverse. Faut pas attendre
Ouais.
que les joueurs soient blessés, il vaut mieux payer un peu plus avant pour que tous tes joueurs soient efficients pendant la saison, ça je suis d'accord.
Voilà. Et là, tu mets aussi des objectifs et de la pression sur le préparateur physique, parce
C'est
que c'est
clair.
son job, donc tu dois
Ouais.
rendre des comptes et tout ça. OK. Et quand on aura cette approche-là, bah, ça sera pas mal.
Ouais, complètement.
Après, c'est une question de moyens. Je ne sais pas si c'est une question de moyens. Ça, c'est souvent un peu l'excuse qu'on.
Ouais, c'est
Mais
clair.
voilà, après, quand tu iras de Monaco, il y a deux préparateurs physiques.
Ouais, non, c'est clair. Aujourd'hui, je sais pas, tu as peut-être une vision un peu plus précise que moi là-dessus. Tu penses que l'EuroLeague se rapproche un petit peu de la NBA sur la structuration ou t'en penses quoi un peu du développement du basket européen?
Bah, de plus en plus, il y a des clubs quand même qui jouent. Après, c'est toujours pareil, tu joues le jeu, tu joues pas le jeu, mais tu as des clubs qui se développent, tu as des clubs qui se développent pas du tout. Voilà. Mais des clubs comme Madrid, Barcelone et tout ça, c'est hyper structuré. Il y a des pôles performance, il y a tout ça. C'est ce qu'on parlait avec Lucas justement.
Ouais.
Ou dans un. Et ça va bouger parce que les GM ont changé également, les clubs. Et l'EuroLeague va vers ça, mais à un moment donné, il y aura des pôles performance carrément. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un seul préparateur physique dans un staff d'EuroLeague. Il y en
Ouais.
aura 3-4, à mon avis, très, très rapidement.
Ouais.
Tu auras un mec qui sera spécialisé dans les blessures, un mec qui sera spécialisé dans le travail collectif de l'équipe. Tu as un mec
Ouais.
qui sera spécialisé dans je ne sais pas quoi. Mais on va aller vers ça parce que ça va devenir de plus en plus exigeant. Ça va devenir. Tu as toujours l'histoire de contrat, tu as toujours. Donc, ça, on va aller vers ça, je pense, de plus en plus. Il y a des clubs qui vont commencer à faire, et puis, et ça ne sera peut-être pas ces clubs-là qui vont gagner.
Oui, peut-être pas, non, évidemment.
Tu vois?
C'est pas, oui, non, mais c'est clair, parce qu'au final, la vérité du terrain, c'est pas forcément la vérité des process qu'on met en place, mais bon, ça
Voilà.
veut pas dire qu'on doit pas essayer, quoi. Non, c'est clair.
Exactement. Et puis après, tu as quand même la marque du club, tu as la marque de toutes ces choses-là, en fait, où tu dois inspirer, tu dois montrer des exemples, tu dois donner des exemples de structure, de
Ah,
professionnalisme. Une marque, à
c'est
l'heure
clair.
actuelle, la marque Bayern de Munich, tu vois,
Ça marche.
si je te parle de la marque Real de Madrid, tout le monde
Ouais.
sait. Real Madrid, sérieux, entraînement, machin,
Ah, c'est
nanana.
clair. Ah, c'est clair. Et je pense que dans chaque sport et à chaque échelle, il peut y avoir ça. Il y a forcément des, tu vois, à plus petite échelle, tu peux devenir un club dans ta division, référencé en termes de suivi du joueur, en termes de professionnalisation là-dessus. Ça peut être, ça peut, enfin, je pense que c'est un truc qui peut attirer des joueurs aussi en développement, des jeunes potentiels. Enfin, il y a des choses à faire là-dessus. C'est pas que financier. C'est pas, enfin, je pense, mais du coup, c'est une autre philosophie. C'est une philosophie à mettre en place
Ouais.
et prendre en considération.
Et tu vois, par rapport à ce qu'on disait, par exemple, sur les clubs de Euroleague, de moi, ce que je sais, c'est que tu as, à l'heure actuelle, je pense que tu as deux types de clubs différents. Tu as le club qui n'a pas les moyens de payer des joueurs super chers,
Ouais.
typiquement Baskonia.
Ouais.
Baskonia n'a pas les moyens d'avoir un Shane Larkin ou je ne sais pas qui.
Ouais.
Mais du coup, ils ont créé tout un pôle autour des joueurs hyper compétents. Donc, ils ont investi leur argent sur ce pôle-là pour récupérer des joueurs à fort potentiel et ensuite pouvoir les amener ailleurs et tout ça.
Ouais.
Puis, tu as des clubs autres comme Efes, Istanbul par exemple, double champion d'Europe et tout ça,
Ouais,
où
quand
là,
même.
ils ont les moyens de mettre de l'argent sur les joueurs, mais par contre, il n'y a quasiment rien autour d'eux.
Ouais, complètement.
Tu vois, et c'est là où les joueurs disent, bah, il n'y a rien, donc bah, Seb, qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de clubs comme ça aussi.
C'est business.
Mais tu vois, je pense qu'il y a deux possibilités d'avoir. Donc maintenant, quand on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, même dans des clubs ici, quand on dit que c'est une question de moyens, je ne suis pas persuadé. C'est une question de comment tu investis ton argent et quelle vision tu as et qu'est-ce que tu veux vraiment faire.
Ah, c'est clair. Ah, je suis complètement d'accord. Mais du coup, c'est intéressant de l'entendre dire, tu vois. C'est des discours qui, je pense, peuvent être entendus par beaucoup dans beaucoup de sports et à différentes échelles, mais c'est intéressant de voir ça. Est-ce que toi, là, maintenant, avec, on va dire, quasiment 20 ans de carrière, c'est quoi tes quelques, on va dire, ton mindset actuel et qu'est-ce que tu penses pouvoir faire ressortir de tout ça en termes de leçons, en termes de, qu'est-ce qui te semble important, c'est quoi les grandes lignes de toute ta carrière? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ça peut être sur l'aspect vraiment entraînement, mais ça peut être sur l'aspect humain, développement personnel, etc. Et est-ce que tu as des
Ouais.
regrets? Est-ce que tu as des...
Des regrets, c'était. Il n'y a pas de regrets. Mais il y a des choses qui auraient pu être mieux faites.
Ouais.
Après, tu vois, par exemple, quand j'étais en NBA, j'aurais pu, par exemple, développer plus mon réseau là-bas.
Ouais.
Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'étais fidèle à mon joueur. Je ne me voyais pas travailler avec Kevin et, à côté de ça, développer mon réseau.
Moi, je vois.
Et c'était con.
Ouais.
C'était con. Et voilà, c'était comme ça que je pensais à ce moment-là. Et pourquoi je dis que c'est con? Parce que ça reste du business. Et puis qu'à un moment donné, bah, Kevin, voilà, il joue plus. Hein, donc bah, il faut bien
Ah, il
regarder.
faut continuer, ouais, c'est clair.
Donc voilà, tu vois, c'est des choses comme ça. Après, partout où je suis passé, moi, je me suis toujours investi à fond. J'ai toujours jamais triché, tout ça. Donc là-dessus, j'ai pas de truc. Après. Humainement, des très bons souvenirs de partout. Hein. J'ai jamais eu
Ouais.
de problème avec des joueurs ou des trucs comme ça, tu vois. Ça reste cool et ça travaille. Moi, je sais que maintenant, ma philosophie, elle est plus maintenant bon, sur développer, bien sûr, ma marque et tout ça. Mais tu vois, moi, je serais pas contre, par exemple, un retour dans un club.
Ouais.
À condition. Parce qu'après, c'est ça. Après, c'est à condition, en fait, qu'il y ait un véritable projet,
Ouais, bah oui, forcément.
qu'il y ait des moyens. Et quand je parle des moyens, c'est des moyens aussi, bon, bah, forcément financiers, parce que tu
Non,
as
évidemment.
qui demande, hein. Mais aussi des moyens de structure. Tu vois? Parce que je parlais avec un collègue que tu as vu aussi à l'INSEP. Bon, quand le préparateur physique est obligé de mettre deux barres de muscu sur le terrain de basket pour pouvoir entraîner ses gars, c'est pas possible, en fait.
Non, c'est clair.
Donc maintenant, après tout ce que je viens de te dire, combien de clubs en France peuvent...
Ah, ça réduit la liste. Ça réduit la liste. Et tu te tu aujourd'hui avec Bah, ton parcours, il est exclusivement basket, mais est-ce que tu serais intéressé pour aller ailleurs? Non?
Non. Ça, on m'a proposé tout ça. Le foot, le rugby, le tennis. Je suis un accro du basket. Je suis né avec le
Ouais.
basket.
Ouais, je comprends.
Et c'est con ce truc-là, parce que c'est ce qui fait aussi que je pourrais gagner beaucoup plus d'argent ailleurs et tout ça.
Ouais.
Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Mais moi, je me dis que bah, voilà, mon combat et tout ça, moi, c'est le basket. Donc, on y va. Et puis,
C'est honorable.
mais je pense que petit à petit aussi, parce que j'ai développé beaucoup de compétences, je pense sur le management,
Ouais.
management humain, tout ça. Et c'est vrai que petit à petit, moi, bon, et puis tu vis. Malheureusement, il faut le dire, ce truc-là. Et que c'est un métier qui est usant physiquement et tout ça,
Ouais.
quand même. Et puis c'est un métier, ça c'est marrant parce que ça c'est maintenant que je me rends compte parce que moi je l'ai encore ce truc-là, mais peut-être qu'un jour ça s'arrêtera. Je parlais avec l'assistant de la sélection nationale de la Tunisie et il me disait bah, plus tu vieillis, plus tu as des problèmes générationnels parce que nos joueurs sont toujours sur la même tranche d'âge
Ouais.
et nous on bouge
Ouais, c'est vrai.
et il faut comprendre toutes ces nouvelles générations, il faut que qui capte tout ça, tu vois. Là, ce qu'on parle de la génération Z là qui arrive. Elle est fantastique parce que le temps d'attention, il est de 5 minutes.
Ouais, c'est assez fou.
Et quand le temps d'attention, il est de 5 minutes, parce que c'est une vérité, hein, à partir de
Ouais.
5, il n'y a plus grand qui arrive à suivre, bah, tout ton management doit changer.
Ouais,
Tu
c'est
vois,
vrai.
par exemple, moi j'interviens sur ça, par exemple, avec la sélection nationale de la Tunisie, tu vois, le rôle du préparateur physique. Tu vois, quand on parle de ça. Et l'autre fois, je disais. Pourquoi on s'entête et pourquoi on continue à faire des réunions de 40-45 minutes?
Ouais.
Au bout de 5 minutes, on a perdu tout le monde. Et une fois que tu as passé le joueur concerné, pendant 40 minutes, il n'a plus rien à faire, lui. Tu
Ouais. Ouais,
vois?
c'est vrai.
Est-ce qu'il n'y a pas une autre approche maintenant avec tout ce qu'il y a en technologie et tout ça? Et j'ai prouvé par A plus B, parce que moi, je sais comment on peut faire, qu'on pouvait faire des choses comme ça, et très efficaces, et avoir des feedbacks et des machins. Et quand tu poses la question, bah, pourquoi on ne le fait pas? Bah, parce qu'on a toujours fait comme ça.
Ouais, ça c'est la réponse.
Le problème, c'est que le monde change. Le problème, c'est que la société change. Le problème, c'est que tout change.
Ouais, c'est clair.
Il faut s'adapter. Donc, quand on revient vers moi maintenant, moi, j'ai toujours ce truc avec un peu jeune, parce que je suis très proche de certaines technologies aussi, et j'aime bien tous ces trucs-là. Et je pense que ma personnalité fait que ça colle encore. Mais peut-être qu'à un moment donné, par exemple, dans le coaching privé, je ne me vois pas retourner avec quelqu'un qui a 22 ans.
Ouais, je vois.
Tu vois? À l'époque, il y avait avec Kevin et moi, il y avait 10 ans d'écart. Donc c'était cool. Là, avec Rodrigue, il y a 8 ans d'écart.
Ouais,
On est dans la même génération, on est dans le même truc.
complètement.
Là, maintenant, j'ai 43. Tu retournes avec un mec de 22, il y a 20 ans d'écart.
Ouais,
Tu
ça va
vois,
s'accroître.
ça, il faut le prendre. Ça, il faut le prendre en compte, ça. Mais après, ouais, me diriger de plus en plus pour être général manager d'un club, ça me plairait,
Ouais.
je pense. De plus en plus. Justement, de tout ce que je viens de te parler, parce que c'est toujours pareil, on peut pointer du doigt, machin, nanana, mais la meilleure arme, c'est d'être fidèle avec ses opinions et de dire bah, peut-être que moi, je peux devenir général manager, parce que ça me plaît déjà et que j'ai des trucs en tête, et
Ouais.
d'installer ce que j'ai en tête sur l'épaule, d'installer cette vision des choses
Ouais, c'est clair.
dans un club, de le structurer, de machin, et ça peut peut-être changer petit à petit.
Ouais, je te rejoins là-dessus. En plus, je trouve ça intéressant parce que c'est finalement quand souvent tu as été coach comme ça et que tu as pris le temps de te réfléchir à toutes les questions psycho, physio, structurel, management et technico-tactique aussi, une certaine mesure, et bah, tu as cette vision un peu holistique qui te permet derrière de peut-être mettre des choses en place. Et de voir la chose de manière un peu plus globale, alors que souvent, dans certains clubs, tu vois, c'est pareil. Un athlète va finir sa carrière et on le fout manager directement l'année d'après, alors que ça s'invente pas en fait, quoi. C'est pas, tu peux pas devenir comme ça manager en 2 mois, alors qu'il te faut des années d'expérience pour comprendre et analyser un peu le système et pouvoir voir ce qui est possible de mettre en place, quoi.
Ouais.
Pour
Tu vois,
finir,
juste
ouais.
par rapport à ça aussi, parce que c'est des moments comme ça dans ta vie où tu as toujours des. On a un job qui sera jamais, qui nous amènera jamais sur une vie comme ça. C'est toujours des up and down, des up and down et des grosses remises en question sur des cycles et des trucs comme ça. Et donc, moi, je suis pas loin dans cette zone-là, là, tu vois. Et en fait, l'autre fois, il y a une question, j'en parlais avec tous les gars, l'INSEP. Il y a une question. En fait, Rodrigue m'a mis un truc dans la tête que j'avais jamais pensé, Rodrigue Beaubois.
Yes.
Il me dit, mais Seb, qu'est-ce que tu as à prouver encore à l'heure actuelle? Puisque tu as été partout où tu voulais.
Ouais, c'est clair.
Je ne t'ai pas posé cette question-là. Depuis il m'a posé cette question, je me dis, mais en fait, c'est vrai, parce que toute ma vie, ça a été challenge. C'est-à-dire, je veux un job préparateur physique. Boum, je l'ai eu à Cholet. Tu commences avec les espoirs, machin, tu décroches ton premier contrat full-time, tu vas avec les pros, tu deviens champion de France. C'est bon, ça, je l'ai.
Ouais.
Tac. Tu vas dans le monde de la NBA. Tac, tu l'as. Tu vas maintenant coacher les mecs d'Euroleague. Tac, tu l'as. Ce qui me ferait plaisir à l'heure actuelle, ce serait d'intégrer un club d'Euroleague.
Ouais, gagner l'Euroleague, quoi.
Ça, c'est un challenge.
Ouais.
Tu vois, le next challenge. Les places sont tellement chères, tellement chères. C'est compliqué. Et puis, ça veut dire qu'il faut encore rebouger, machin, là, là.
Ouais, c'est un
Et
autre jeu.
voilà, tu vois, à un moment donné, c'est quoi le prochain challenge? Je ne sais pas. Peut-être que ça sera plus vers tout ce qui est général manager et tout ça.
Ouais, il y a une nouvelle étape dans ta carrière, on va dire, quoi, mais c'est...
Voilà.
Parce que je pense que finalement, tu vois, c'est un truc que je retrouve chez moi aussi, et chez pas mal de gars qui sont dans la prépa, mais sûrement aussi dans l'entraînement, hein, peut-être dans une moindre mesure, mais cette volonté de d'être comme gérer ta carrière comme un sportif, vouloir aller chercher des objectifs supérieurs, se challenger, être compétiteur, etc. C'est un truc que je trouve beaucoup aussi dans ce monde-là. Quand tu es dans des staffs, quand tu es dans finalement, tu vis un petit peu aussi à ce rythme-là, en fait, quoi. Donc
Ouais.
c'est complètement la même chose, quoi.
On est des entrepreneurs.
Ouais, sinon c'est vrai, c'est vrai.
Ouais, c'est pour ça que je te dis que les joueurs doivent être des entrepreneurs.
Ouais, ah, c'est vrai. On finit avec une dernière question, parce que là, ça va faire déjà un podcast d'une bonne heure et demie, je pense.
Ah, je l'ai écouté plusieurs fois.
Ah,
Ah,
ce sera l'occasion de faire d'autres podcasts parce que j'ai plein de questions, plein de thèmes, et on y reviendra dans quelques temps, si c'est partant, pour refaire un second épisode.
sûr.
Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux conseiller, tu vois? Si toi tu dois me conseiller quelque chose à moi, Samuel, 24 ans, qui clairement aspire à avoir une carrière un peu de ton type, c'est quoi ton conseil ou tes conseils, tes petits tips là que tu pourrais filer en mode pour essayer d'optimiser un peu les chances d'aller vers là où on veut et de réussir entre guillemets dans son domaine? Ça s'applique à plein d'autres choses.
L'une des premières choses que je dirais, moi, ce serait de tenter une aventure à l'étranger.
Yes, c'est un truc que moi j'ai dans le coin de ma tête, mais c'est...
Et quand je te dis une aventure, c'est peut-être pas travailler dans une équipe, mais même faire des formations à l'étranger.
Ouais, ok.
Pour voir autre chose, pour voir d'autres cultures, d'autres philosophies d'entraînement, pour tu vois, ça serait déjà la première chose. Après, la deuxième chose, parce que souvent, on me dit, beaucoup de jeunes viennent me voir et me disent, qui veulent des infos sur ce métier-là.
Ouais.
Et inconsciemment dans ma tête, une des premières choses que je me dis, moi, c'est ne fais pas ce métier. Parce que tu as expectation, comment on dit ça
Ouais, les attentes.
Ouais, tu as tes attentes, tu as
Ouais.
ta vision, et tu as la réalité du terrain.
Ouais.
Et je dois pas être un modèle, parce que ça a marché pour moi. Je vais pas me plaindre, ça a marché pour moi depuis 18 ans, ça marche. Et
Ouais.
peut-être que demain, ça ne marchera plus. Mais ça a marché pour moi. Mais ce n'est pas la réalité.
Non, c'est clair. Non, c'est clair.
Donc maintenant, il faut être d'accord aussi sur un autre truc. C'est pourquoi tu fais ce métier. Et c'est ça mon meilleur conseil. C'est est-ce que tu fais ce métier-là parce que c'est une guerre d'ego?
Ouais.
Est-ce que tu penses une guerre d'ego? Ou est-ce que tu fais ce métier-là parce que tu aimes transmettre? Parce
Ouais.
que tu aimes. Tu vas donner de ta personne parce que tu es prêt des fois à sacrifier certaines choses dans ta vie. Parce que tu vois,
Ouais.
si c'est une guerre d'ego, tu vas péter.
Ouais, c'est pas les bonnes raisons.
Ouais, tu tiendras pas. Parce que c'est trop dur. Et puis, de toute façon, on verra que tu es concentré sur toi. Et en fait, ce métier, il faut être concentré sur l'autre.
Ouais, complètement.
Ouais,
Complètement.
c'est en étant concentré sur l'autre et en donnant tout ce que tu as à l'autre, en fait, que toi, bien sûr, la lumière commence à venir sur toi.
En retire, ouais, complètement.
Je pense que ça, c'est un des plus beaux conseils que je pourrais donner, en fait.
Ok.
Tout bête, très simpliste, mais je pense que c'est la base.
Non, c'est vrai, t'as raison. Non, je pense que t'as raison, mais c'est surtout dans là actuellement où ça se dé... enfin, il y a vraiment, je trouve, un boom au niveau entraînement, accompagnement de l'entraînement, prépa physique, prépa mental, entraînement, etc. Peu importe les thèmes, mais. Mais clairement, tu vois, on est beaucoup à sortir d'études et enfin, il n'y a pas beaucoup de place, en fait. On devait être dans ma promo de master, on devait être 25 et on est deux à avoir trouvé un job, en fait. Tu
C'est
te dis,
ça.
attends, c'est ahurissant, quoi. Donc, non, c'est clair.
Et dans le haut niveau, on en parle avec Lucas, hein, c'est quoi? Tu as 30 jobs. Tu as
Ouais.
30 jobs en Europe.
Là, c'est.
Dans des structures qui tiennent la route.
Ouais, c'est
Dans la
clair.
tête. Sur l'Europe entière.
Ah, c'est clair. Après, on peut se dire, tu vois, si on est optimiste, que dans les années qui arrivent, ça va se développer, qu'il y a de plus en plus de championnats, tu vois, de première, deuxième, et même dans certains sports, troisième division qui commencent à être vraiment professionnels, dans le rugby par exemple, ou dans d'autres sports. Et peut-être que du coup, va y avoir un avènement aussi des demandes et enfin, l'offre va s'accroître aussi. Donc peut-être que c'est un métier d'avenir. Mais en tout cas, c'est clair que c'est comme pour les athlètes, c'est la guerre en fait, quoi. C'est la guerre pour réussir à trouver un poste et on veut tous la même
Ouais.
chose au final. Donc non, non,
Ouais.
ok.
Et le dernier conseil, ça serait d'être toujours critique.
Ouais, de rester.
C'est-à-dire alors critique dans l'analyse, c'est-à-dire de toujours avoir sa propre opinion sur beaucoup de choses.
Ouais.
C'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça, tu vois, après, il y a toujours ce combat entre le terrain, la science et toutes ces choses-là. Mais il n'y a pas une vérité, en fait. Donc, il faut vraiment être dans la critique. Il y a des choses qui sont très intéressantes. La science dit, OK, il y a ça, ça, ça. Oui, en effet, c'est intéressant. Mais moi, avec mes gars, ça ne marchera pas. Donc, tu vois, il faut toujours avoir un peu ce recul-là, je pense. Et
Ouais.
dans l'autre sens aussi. Des
Ah,
fois, être sur le terrain, dire, bah, tiens, la science, par contre, nanana, tu vois, mais toujours avoir cet aspect critique. Et moi, c'est ce que je dis. Tant que j'ai cet aspect critique et d'ouverture d'esprit, d'aller chercher les informations, de me remettre en question. Je continuerai ce job-là, mais je pense qu'à partir du moment où tu n'as plus ça, c'est fini en fait. Parce qu'après, tu peux très bien trouver un job et être tranquille.
ouais, quand
Les
t'as plus la
gars,
flamme,
on sait tous
ouais.
notion de sprint, bon, bah, tu fais une longueur, 5 secondes, tu reviens, machin. Voilà, on ne va rien inventer. Hein.
Ouais, c'est clair.
Mais bah, c'est comment tu le transfères, tout ça, comment tu le vis, quoi.
Non, c'est clair. Non, t'as
Qui
bien raison.
est...
Ok, bon. Merci beaucoup pour ton temps. J'espère que l'épisode aura plu à tous les auditeurs. N'hésitez pas à me faire un retour si vous voulez un deuxième épisode, pardon, avec Seb. Et surtout, si vous avez des questions à lui poser, on pourra peut-être lui poser dans un second épisode. Merci de m'avoir accordé de ton temps, c'est cool. C'est pas tous les jours qu'on peut parler avec des gars qui ont ton expérience, donc moi je trouve que c'est vachement enrichissant. J'espère que tu trouveras un projet qui te plaira sous peu en club et potentiellement dans un gros club, ou alors que tu trouveras en tout cas un truc qui te va. Si jamais un jour tu te perds, n'hésite pas à venir à Quimper, hein, ça peut être cool aussi de se croiser. Ou si moi je passe à Rennes et que tu es sur Rennes, j'hésiterai pas à te solliciter pour.
Ah, ou de se croiser, de se parler, parce qu'on a eu l'occasion une
Oui, de se
seule
croiser, oui, de se parler
ici.
pour de vrai. Yes. Yes, 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 yes. Bon, en tout cas, merci beaucoup et on reste en contact dans le futur, j'espère. Et je te souhaite plein de réussite et un bon été qui sera chargé, du coup, de ce que j'ai compris.
Très chargé, ouais.
Ok, allez, merci beaucoup et à plus.
À plus.